Entretien Choc FM 105.1 avec Magda Yanjechak.
Aujourd'hui, on s'intéresse à une réalité souvent invisible au sein des communautés franco-ontariennes. L'Union culturelle des franco-ontariennes, qui travaille depuis 90 ans auprès des femmes francophones en milieu rural, vient de publier son tout premier livre blanc intitulé « Elles existent, mais les voit-on vraiment ?». Ce document qui met en lumière les réalités vécues par les femmes aînées francophones en milieu rural, leur rôle central dans la vie communautaire, leur travail souvent bénévole et non rémunéré, mais aussi leur forte sous-représentation dans les données et les décisions publiques. Pour en parler, je suis aujourd'hui avec Janie René-Miller, directrice générale de LUCFO. Janie, merci beaucoup d'être avec nous. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer le rôle de LUCFO dans les communautés franco-ontariennes?
Je suis Janie René-Miller, directrice générale de l'Union culturelle des franco-ontariennes. La mission première de l'UCFO, c'est l'autonomisation des femmes, donc de les appuyer dans tous les besoins qu'elles ont pour qu'elles se réalisent au plus grand ou au meilleur de leurs capacités.
Et vous venez donc de publier un livre blanc sur l'invisibilisation des femmes aînées francophones en milieu rural en Ontario. On va échanger évidemment sur ce livre, mais avant ça, j'aimerais savoir quel a été le point de départ qui vous a donné envie justement de traiter de ce sujet-là maintenant.
On savait déjà que l'AFO s'engageait à faire les états généraux parce que les documents de l'AFO sont pris très au sérieux par les gouvernements quand c'est le temps de faire des décisions sur les communautés de langue officielle en situation minoritaire, de l'attribution des fonds. Souvent, on nous dit, ça, c'est votre document guide. Quand vous appliquez pour une demande de subvention, il faut vraiment garder ces objectifs-là ou du moins le plan stratégique en tête, etc. Et on a réalisé que nous, on voulait entamer un nouveau dialogue, dans le fond, le dialogue de l'histoire des femmes franco-ontariennes, du patrimoine, des passeuses de patrimoine, des passeuses de culture qui sont largement dans les petites ruralités de l'Ontario français. Et c'est souvent celles qu'on ne recense pas. Un, parce que ça coûte trop cher d'aller les chercher pour faire des sondages. Deuxièmement, parce que les communautés fonctionnent toutes de façon différente. Et moi, depuis mon siège de directrice, je te dirais l'enjeu principal que je vis à tous les jours, c'est de fédérer 20 cercles qui opèrent différemment et qui opèrent à la vision et à la grandeur de leurs communautés respectives.
Est-ce que du coup, concrètement, à quoi ressemble le quotidien de ces femmes? Est-ce que vous avez des exemples un peu pour nous aider à avoir une image concrète de ce qu'est leur quotidien?
Absolument. Je peux vous donner, par exemple, quand je faisais la recherche, justement, puis je recueillais des témoignages parce que je voulais faire des portraits de ces femmes-là. Il y a une dame âgée de la région du Nord ontarien qui me dit « Je te cacherai pas que l'UCFO, ça a été mon université. Je suis issue d'une famille avec plusieurs enfants. Mes parents ne pouvaient pas me payer une école postsecondaire. Il n'y en avait pas dans le coin de toute façon. Je me suis mariée jeune, j'ai eu plusieurs enfants et je n'ai pas eu les opportunités que les jeunes ont en ce moment. Mais à travers l'UCFO, j'ai appris le leadership, j'ai appris la gouvernance, j'ai appris ce que ça voulait dire d'être solidaire, comment fédérer des gens, même quand ils disent non, comment être un moteur de ma communauté et créer des choses à notre image. Ça, je sais très bien faire, mais j'ai pas le diplôme sur mon mur qui dit que j'ai fait tout ça. Je suis une membre de l'UCFO.
C'est beau, c'est très très beau, ça doit faire du bien d'entendre ce genre de message aussi, j'imagine.
Et on en a beaucoup parce que c'est le lot de la plupart de nos membres, parce que nos membres sont éparpillés entre Windsor et Kapuskasing, dans des communautés rurales la plupart du temps ou sinon semi-rurales.
Et justement, pendant votre travail de recherche, est-ce qu'il y a des hypothèses que vous avez confirmées ou à l'inverse que vous avez remises en question? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement surpris peut-être?
Ben, on a fait un recensement des écrits et il y a des contemporaines comme Diane Adam ou Linda Cardinal qui ont justement mis le doigt sur les problèmes d'intersectionnalité, le fait qu'on ne voyait pas certaines des dimensions des femmes franco-ontariennes juste parce que sont difficiles à rejoindre, c'est sous-documenté, personne n'a de l'argent pour faire des études. Enfin, on peut juste imaginer la multiplicité des excuses pour ne pas le faire. Et moi, je me suis dit, j'ai déjà ces femmes-là. Ce sont des bénévoles extraordinaires. Dans mes membres, je te dirais, l'an dernier, 69 000 heures de bénévolat. Si on chiffre ça à au moins 25 $ de l'heure, parce que ne sont pas nées hier, hein, c'est pas des jeunes, elles ont un peu d'expérience, ça monte à 1,7 million d'actifs. 1,7 million de dollars qui est reversé si on veut, dans les communautés en temps. Puis en plus de ça, elles font des levées de fonds, elles remettent des dons à de nombreux organismes, elles font plein de choses. Mais leur objectif, c'est vraiment le don de soi puis donner ce que la communauté a besoin. Fait que peut-être à Kapuskasing, ils ont payé une partie de l'équipement de dialyse de l'hôpital. À Verner, ils ont peut-être donné l'argent pour les scouts parce qu'il y a une troupe de scouts qui a besoin des fonds pour et qu'elle se sent très interpellée par ça. Il y a d'autres endroits où c'est d'autres choses qui les interpellent. On a des femmes qui font qui tricotent des bonnets pour les nouveau-nés. Il y a des gens, justement, si vous allez sur notre page Facebook aujourd'hui, il y a un cercle dans le Témiscamingue qui a fait 153 coussins en cœur pour les patients cardiaques qui ont besoin de ça pour leur réadaptation. Quand même, c'est un beau bénévolat, là. Fait que quand on supporte des communautés ou qu'on les appuie à grands coups de sandwich et de bénévolat, c'est ce que ça donne, c'est un cercle de l'UCFO. Et ce qu'on s'est rendu compte aussi en regardant l'historique, moi, je voulais retrouver ou recenser, dans le fond, tous les cercles qu'on a eus. Et on s'est rendu compte que quand il y avait un cercle qui disparaissait dans une petite région, souvent, c'était le français qui disparaissait dans cette région. Alors, on est parti avec des corrélations assez probantes. On savait déjà qu'on aurait des constats hors de l'ordinaire dans cette intersectionnalité. Donc, dans les 8 zones où on a identifié qu'on avait des degrés d'invisibilité, mais je pourrais en ajouter. Si on ajoutait, par exemple, la dimension LGBTQ2IA+, si on ajoutait, par exemple, des circonstances d'immigration comme telle ou de nouveaux arrivants dans 3 ans, ou tu sais, si on se donnait des paramétrages ou des métriques différentes, c'est sûr qu'on aurait encore plus de données. Mais là, c'était déjà une première pierre d'achoppe, donc un premier dialogue qu'on tentait de façon beaucoup plus probante avec des chiffres, parce qu'on le disait avant, mais on n'avait pas de chiffres. Donc ça nous donne un peu cet ancrage que les gouvernements ont besoin, parce que on le sait, Marc Carné, c'est un économiste, il répond aux chiffres beaucoup plus qu'aux témoignages de mamie du fin fond de la ruralité franco-ontarienne.
C'est ça, justement, dans votre livre blanc, vous parlez d'un désert de données et donc d'invisibilisation. Qu'est-ce que ça change très concrètement pour ces femmes sur le terrain de ne pas avoir de données et qu'est-ce que vous espérez justement réussir à apporter?
Là, on en a des données. On n'en avait pas avant ce livre blanc. Et dans le fond, je pense que la perspective, c'est si on ne peut pas le nommer, ça ne compte pas. Et si ça n'est pas compté, qui va le savoir?
Ça n'existe pas.
Voilà. Et donc, ce constat-là où nous, on s'est projeté vraiment à l'intérieur de données, on a fait des sondages et les sondages internes, ils étaient complètement anonymes. Les femmes pouvaient répondre ce qu'elles voulaient. Ça nous a donné une espèce de petit portrait clinique dans le temps qui n'a jamais été fait. Puis, on n'a pas eu de fonds pour faire cette recherche-là. On l'a fait selon notre bon vouloir et selon nos moments de temps personnels. Les fins de semaine, les soirées, les vacances, enfin, tu peux imaginer. Mais dans tout ça, je pense que l'idée, c'est il y a déjà des lois en place, il y a déjà des paramètres en place, mais quand on n'est pas vu, comment les appliquer, ces paramètres? Comment est-ce qu'on peut dire que la loi des services en français, elle n'est pas dans la ruralité ou dans le petit patelin de Virginia Town ou de Hearty ou de Saint-Isidore? Enfin, comment est-ce qu'on peut actionner une loi ou une promesse quand on sait pas comment l'interpréter, si on veut, dans la ruralité? Alors, comme ça, c'est la population première de l'UCFO, on s'est dit, nous, on va amener de l'eau au moulin. On va ajouter, c'est notre responsabilité aussi d'aider l'AFO à saisir, là, je parle de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, dans la foulée de ses états généraux et dans la production du prochain livre blanc qui va informer les prochaines années. Nous, on croit que si on n'amène pas de l'eau au moulin, si on n'est pas probante et si on n'a pas des recommandations à faire, certes, on n'aide pas vraiment à tout l'écosystème franco-ontarien. Donc, dans le but, justement, d'amener cette discussion un peu plus loin, il y a des gens qui ont perçu ou qui nous ont demandé « Mais pourquoi vous avez plus de recommandations dans ce livre blanc pour l'AFO que vous en avez pour les gouvernements provinciaux et fédéraux? » C'est simple, c'est parce qu'on respecte que c'est la façon de faire et que on sait que le temps presse pour l'AFO aussi. Ils doivent déposer leur livre blanc et qu'ils viennent de finir leur vague de consultation. consultations un peu partout. Et là, on voulait être des bons partenaires en leur disant, voici où chercher. On va vous aider à sauver du temps si on mène nos trucs en commun. Voici où chercher. Donc, il y a certains de ces constats-là qui sont vraiment du constat de terrain pur et dur, genre l'Internet défaillant dans certaines régions rurales, la téléphonie cellulaire qui n'est pas toujours disponible dans ces régions-là où il y a des grosses zones de blackout. Aussi, un truc qu'on n'avait pas apprécié avant, mais le fait que des personnes âgées doivent avoir des vérifications d'antécédents judiciaires pour aller lire une histoire en français en première année à l'école. Et il s'avère que la population qu'on cherche à protéger, qui est les enfants, elle est moins vulnérable que la population de qui on demande la vérification d'antécédents judiciaires. On est d'accord, c'est un non-sens. Mais enfin, ce sont des choses où, si on ne disait pas ces constats-là, je pense que c'est encore une fois renchérir ce qu'on sait, mais qu'on a oublié ou qui n'est pas toujours à la vue. Et là, je pense à un des trucs qui était vraiment important dans les dernières années, c'était contrer l'exode des jeunes de la ruralité vers les milieux urbains. Ben, c'est évident pour moi que s'il n'y a pas d'Internet haute vitesse et que je ne peux pas avoir un job quand je reste dans ma ruralité, je ne resterai pas. Il faut ancrer les constats dans qu'est-ce qui fait du sens, qu'est-ce qui est le bloc précurseur, pourquoi ça se passe comme ça, ben on a l'évidence même. Mais enfin, là, on l'a actionné ou on l'a traduit à travers les vies de nos membres et de ce qu'elles nous ont confié comme témoignage.
J'imagine qu'il y avait des hypothèses que vous aviez, parce que vous connaissez déjà votre communauté, je me demandais si à l'inverse, vous aviez découvert des réalités auxquelles vous n'aviez pas pensé et qui sont ressorties justement de ce travail-là.
Effectivement, la chose qui nous a étonné le plus, je te dirais, c'est d'avoir à défendre que si on était invisible, c'est pas parce qu'on était absent et qu'il y a cette équation qui se fait normalement dans la tête des gens. Puis de plus en plus, on va pas s'en cacher, les femmes franco-ontariennes comptent pour 53 % de la population francophone de l'Ontario. C'est aussi, si on regarde les strates de population, les segments de population, le segment de population qui s'accroît le plus vite, c'est les 65 ans et plus, avec les boomers. Mais c'est étonnamment, les gens qui restent valides beaucoup plus longtemps, on a plein de centenaires, on a plein de femmes qui vivent longtemps avec toute leur tête, avec tous leurs moyens. Puis là, on se dit, ouais, effectivement, nos femmes, celles qui font du bénévolat, elles ont le temps, le privilège, la langue. Elles ont souvent des savoirs traditionnels qui peuvent être passés de personne en personne, mais qu'on peut pas apprendre sur l'Internet. C'est difficile d'apprendre comment monter un métier à tisser sur l'Internet. C'est vrai, parce qu'on n'a pas une perspective 3D ou 4D même. C'est pour voir, puis pour entendre le commentaire, puis pour que tout soit en simultané. Donc, nous, on a vécu une crise il y a 2 ans où est-ce que la personne qui savait monter les métiers dans cette ruralité-là est décédée. Puis là, plus personne ne sait comment monter un métier.
Et c'est toute une partie de l'héritage qui part aussi avec ces personnes-là.
Voilà. Et donc, on a sondé nos membres. Qui sait monter un métier? Qui pourrait aller donner un coup de main? On a trouvé une solution, mais c'était rapide. Mais l'idée de tout ça, c'est que ces savoirs-là, ils vont se perdre avec nos plus vieilles qui partent. Et donc, notre occasion de pérenniser ces savoirs-là pour lesquels on n'a pas de certificat sur les murs, parce qu'elle l'a appris de sa mère, de sa grand-mère. C'est des savoirs intimes, là. Puis enfin, il y a plein de choses, plein de clins d'œil de tout ça. Nous, on a remonté le temps parce que c'est notre 90e anniversaire cette année. On est une des plus vieilles associations de l'Ontario français, qui a toujours la même vocation, d'ailleurs. Et en quelque part, dans cette démarche-là, nous, on a écouté des discours de femmes. On a tout consigné ça dans un beau site web qui s'appelle ontarienne-au-pluriel.ca. Alors, si ça vous intéresse de voir les portraits de nos membres, parce qu'on a traduit leurs témoignages en portraits, on a recréé une ligne du temps avec des capsules audio, avec plein d'informations. Et il y en a encore plein d'autres à venir. Et dans la prochaine année, on va se promener d'un bout à l'autre de l'Ontario français avec des kiosques, justement, qui célèbrent notre 90e anniversaire. Donc, ce n'est que la première vague, si on veut, là, dans tout un grand mécanisme de reddition de comptes.
Mais oui, c'est un beau projet. Je me demandais, est-ce que vous savez pourquoi c'est encore si difficile d'obtenir des données précises justement sur toutes ces réalités? Est-ce que ça raconte quelque chose justement des politiques publiques actuelles?
Oui, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'argent en recherche et développement. C'est qu'il y a des décisions aléatoires qui ont été faites. Par exemple, quand M. Carney est venu en poste, il a enlevé la ministre aux affaires à la condition féminine. Après le grand tollé, il l'a remis, mais il a quand même coupé les fonds de femmes et égalité des genres de plus de 80 %. Si on regarde, c'est le plus petit ministère, ou le premier ou le deuxième plus petit ministère dans tout le Canada. Et si on en tire un constat, on se dit, mais pourquoi est-ce que 50 plus % de la population féminine du Canada n'aurait droit qu'à 0,01 % du budget fédéral? C'est quand même des constats et des questions qu'il faut se poser. Donc, pour nous, en tout cas, l'idée, c'est que la donnée, elle s'exprime autrement qu'un paragraphe.
Et pour vous, c'est quoi l'enjeu le plus urgent à adresser aujourd'hui?
Je pense que c'est un enjeu de reconnaissance, dans le sens où l'histoire des femmes franco-ontariennes ne se trouve nulle part. On la trouve pas dans les manuels de classe, on la trouve pas dans les manuels historiques. Personne ne raconte cette histoire-là parce que c'est une histoire de l'ordinaire. On connaît quelques élites des femmes franco-ontariennes. On connaît les Amanda Walker, on connaît Béatrice Desloges, on connaît Jeanne Lajoie, qui est née à 10 km de nos bureaux actuels. Mais dans tout ça, on ne connaît pas l'histoire des femmes. Et je rappelle qu'au tournant du siècle, qui prenait mari prenait pays. Donc, les grandes déplacées de l'histoire, c'était souvent les femmes. C'était souvent elles qui ont dû tenir des maisons, tenir des tablés, nourrir 12 enfants avec presque rien. Ce sont d'ailleurs les inventrices de la soupe aux cailloux, dans le fond. Mais enfin, nous, on est vraiment proactifs, on est dans l'action. Je pense que le plus grand salut que j'ai à faire, c'est à toutes ces femmes-là qui sont excessivement belles, excessivement fortes et résilientes et qu'elles sont le patrimoine. Donc, elles n'ont pas été à l'écart. C'est elles qui ont façonné les espaces francophones d'aujourd'hui.
Et justement, on parle des enjeux, mais qu'est-ce qui, vous donne encore de l'espoir dans ce que vous observez sur le terrain aujourd'hui?
Moi, je vous dis, c'est toutes ces femmes-là qui ne baissent jamais les bras. C'est mon inspiration, c'est la raison que je me lève le matin. C'est de les voir que peu importe les embûches qu'elles ont, elles continuent d'être dans la bienveillance, d'être dans l'action, d'être au cœur de leur communauté et d'aider leur communauté à perdurer et avancer, mais toujours en français.
C'est très, très beau. J'avais une question pour conclure. On en a un peu parlé tout du long, mais je vais quand même la poser. Votre livre blanc s'intitule donc « Elles existent, mais les voit-on vraiment ?» Et j'avais envie de voir avec vous s'il y avait un hommage que vous souhaitiez justement rendre à ces femmes, chose que vous avez fait mine de rien tout au long de l'échange, parce qu'elles ont effectivement contribué à la francophonie ontarienne. Comme elle existe aujourd'hui, on n'en parle pas tant. Du coup, si jamais pour conclure, il y a quelque chose que vous avez d'ajouter justement en hommage à tout ça, je vous laisse la parole.
Je vais vous lire un texte qui a été écrit dans la foulée d'une aventure pour écrire un scénario de théâtre sur justement l'histoire de ces femmes-là. Je vous lis ça. Ça s'appelle « L'université des mains ». On n'y entre pas en septembre, on n'en sort pas avec un diplôme, mais on apprend. On apprend à tenir une assemblée quand les voix montent, à lire une salle avant même qu'elle parle, à dire non sans perdre personne. On apprend que le consensus se cuisine lentement et que brusquer la chose coûte plus cher que le temps qu'on croyait sauver. On apprend que les vraies décisions ne se prennent pas dans des résolutions, mais qu'elles se prennent dans le couloir d'après, dans le stationnement, dans l'auto, sur le chemin du retour. On apprend à porter ce que personne ne voit et à sourire quand même, parce que c'est ça aussi, diriger. 90 ans de savoir qui passe de main en main sans jamais toucher un livre. C'est l'université des mains. C'est nous toutes. C'est nos mains. On entre femme, on en sort autrement femme, avec de la sagesse plein les mains.
C'est magnifique. C'est effectivement une parfaite conclusion pour cette entrevue, je trouve.
Tant mieux.
Eh bien, merci encore. Et donc, le livre est sorti le 30 juin et on espère qu'il fera bouger les choses.
Merci beaucoup, Magda.
C'était une entrevue de Magda Jędrzejczak dans le cadre d'Initiative Journalisme Local à Toronto.